Alors, merci pour votre patience avec les gens qui ont des défis comme moi qui sont de petite taille. Bienvenue à l'Oasis. Merci d'être avec nous ce matin pour entendre la parole de Dieu. Et donc, je prie vraiment que le Seigneur puisse ouvrir nos cœurs ce matin afin qu'on puisse tous repartir à la maison avec un petit quelque chose pour aller plus loin dans notre relation avec Jésus. Et c'est notre défi comme chrétien. On ne vient pas juste à l'église pour voir des gens, on ne vient pas juste à l'église pour écouter de la musique, on vient à l'église pour entendre la parole de Dieu, pour être transformé par cette parole-là. Et c'est là un grand défi pour nous, n'est-ce pas? Et ce matin, j'aimerais qu'on parle un peu de l'histoire de Jean-Baptiste, donc comment Jean-Baptiste a ouvert le chemin pour Jésus. Parce que c'est mon espoir pour nous que nous aussi, on apprenne à ouvrir le chemin pour Jésus dans la vie de d'autres personnes. Aujourd'hui, je vais aller un peu dans cette tangente-là avec le texte, mais je veux juste prendre un moment pour reconnaître que dans nos vies, peut-être dans votre vie ce matin aussi, parler de Jésus, ce n'est pas toujours facile. Particulièrement quand on pense à des collègues de travail, des membres de notre famille ou des amis qu'on a eus depuis longtemps, avec qui on a déjà essayé, ça ne semble pas fonctionner. Ça peut parfois créer une espèce de fatigue à l'intérieur de nous où notre compassion elle s'effrite un peu, on se sent un peu je vais lancer la serviette, je vais abandonner. Ou même, on est un peu distrait peut-être parce qu'on est dans un milieu qui est familier. On est habitué d'être avec ces gens-là qui n'ont peut-être pas d'intérêt pour Jésus ou qui sont peut-être carrément très fermés, très agressifs. Donc, je veux prendre un temps pour reconnaître que ce dont je vais parler ce matin, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Ça serait peut-être le sujet d'un autre message, comment est-ce qu'on prend soin de soi quand on cherche à annoncer l'Évangile ou comment on fait face à, parfois aux commentaires qui peuvent être désobligeants, qui peuvent même être blessants. On ne parlera pas vraiment de ça ce matin, mais je vais juste prendre un temps pour vous dire que je comprends. Et que c'est aussi quelque chose qui est un défi pour moi et qui est un défi pour la majorité des chrétiens quand on veut partager la parole de Dieu et ouvrir le chemin pour quelqu'un d'autre. Donc, sans plus tarder, allons dans la parole de Dieu ce matin. On va être dans Marc, chapitre 1, du verset 1 à 8. La parole de Dieu nous dit ceci. « Voici le commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, conformément à ce qui est écrit dans les prophètes. » Et là, ici, on a une citation qui dit ceci. « Voici, j'enverrai mon messager devant toi pour te préparer le chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. » Jean parut, c'est-à-dire Jean le Baptiste. Il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Toute la région de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient vers lui. » Reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans l'eau du Jourdain. Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Après moi, vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de me baisser pour détacher la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Merci Seigneur pour sa parole. Amen. Donc, le commencement du message de Jean, le commencement de l'Évangile, c'est la parole de Dieu. Donc, je vous partage un petit peu ici pour contextualiser. Le mot Évangile, en fait, dans le contexte où on utilise ce mot-là dans le Nouveau Testament, pour les gens qui n'étaient pas chrétiens, qui entendaient ce mot-là, ils pensaient à une bonne nouvelle d'une victoire politique ou d'un champ de bataille. Donc, on disait l'Évangélio de tel, alors c'était l'annonce d'une bonne nouvelle. Par exemple, la déclaration d'un nouveau leader politique. Donc, quand les gens entendaient, là, on parle d'un autre genre de bonne nouvelle, on parle d'un autre genre de victoire. L'Évangile, c'est l'annonce de la victoire de Dieu. La victoire sur quoi? Est-ce qu'il y en a qui savent? La victoire sur la mort, sur le péché, l'arrivée de Dieu. Alors, c'est une proclamation joyeuse, c'est une proclamation de victoire. Le début de la bonne nouvelle, comme je vous disais, c'est Ici, Marc, l'évangile selon Marc, hein, qui est écrit par Marc, Marc nous présente le début de l'évangile, comme Jean-Baptiste l'a annoncé. Le début, c'est l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament qui disait qu'il allait avoir un prophète qui allait introduire Dieu lui-même. Et ces citations-là qu'on voit, parce que là, on voit comme tel qu'il est écrit dans les prophètes, on ne voit pas vraiment quel prophète a écrit quoi. En fait, ici, on renvoie à deux textes de l'Ancien Testament. Donc, ces citations-là, ils renvoient à un texte. C'est un peu comme, je ne sais pas s'il y en a là qui, ça leur arrive, on entend juste une phrase et tout d'un coup, c'est l'air d'une chanson au complet qui nous vient. Et là, moi, en tout cas, ça m'arrive, là, les gens me disent « arrête de chanter », des fois, c'est étonnant. Mais tu me dis un mot, puis là, tout d'un coup, whoop, il y a une chanson qui vient avec. Et là, je suis startée, je connais la chanson au complet. Et bien, c'est un peu la même chose pour les gens quand ils entendaient la proclamation de Jean-Baptiste. Alors que Jean-Baptiste cite le prophète Ésaïe, le prophète Malachie, c'était des textes qui étaient très connus par les gens. Alors tout de suite, ça leur rappelait, ah oui, c'est cette prophétie-là, et ils se souvenaient un peu de l'air de la chanson qui venait après. Et donc aujourd'hui, on va aller voir un petit peu ensemble la chanson, ou du moins un extrait de la chanson au complet qui renvoie au texte prophétique. Donc, Malachie nous a dit ceci par rapport à cette prophétie-là auquel Jean-Baptiste nous renvoie. Il nous dit « Voici, j'enverrai, et c'est Dieu qui parle ici, j'enverrai mon messager pour me préparer le chemin. Et soudain, il entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez. Il purifiera les descendants de Lévi, c'est-à-dire les prêtres. Il les rendra purs comme on rend l'or et l'argent. » Et c'est suivant la justice qu'ils présenteront des offrandes à l'Éternel. Je m'approcherai de vous, encore une fois dit Dieu, pour le jugement, et je m'empresserai de témoigner contre les magiciens, les adultères, contre ceux qui prêtent de faux serments, contre ceux qui exploitent le salarié, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font du tort à l'étranger et qui ne me craignent pas, dit l'Éternel, le maître de l'univers. » Il nous renvoie également au texte d'Ésaïe qui dit ceci. Une voix crie dans le désert, préparez le chemin de l'Éternel. Faites une route bien droite pour notre Dieu dans les lieux arides. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, tout homme la verra. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Monte sur une haute montagne, Sion, pour annoncer la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour proclamer la bonne nouvelle. Élève ta voix, n'aie pas peur. Dis aux villes de Giza, voici votre Dieu. Le Seigneur, l'Éternel, vient avec puissance. Pareil à un berger, il s'occupera de son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera contre sa poitrine. Il conduira les brebis qui allaitent. Alors, déjà, Jean-Baptiste introduit les gens et leur rappelle cette prophétie-là que Dieu se compare à quoi? Un bon berger, n'est-ce pas? Que Dieu va venir, quand il va venir, il va entrer dans le temple. Qu'est-ce qu'il va faire aussi? Il va confronter les prêtres, hein, pour rétablir la justice. Et donc, il vient déjà rappeler aux gens à travers sa proclamation comment Jésus va venir, comment Dieu va venir. Mais qui était Jean-Baptiste? Peut-être que vous n'êtes pas familier avec Jean-Baptiste ce matin. On va se rappeler juste quelques petits points là, sur la vie de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était un prophète ou un messager, et nous croyons comme chrétiens qu'il était celui qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe et Malachie dans les deux textes qu'on vient de voir, hein, celui qui va préparer la venue de Dieu qui va parler de ce Dieu-là. Il nous parle d'un Dieu qui va venir, qui va rétablir la justice, et qui va être aussi la manifestation de l'amour de Dieu, de la tendresse de Dieu. Le texte nous pointe aussi, et ça c'est de manière un peu plus subtile, en nous disant que Jean-Baptiste est également le nouvel Élie qui est annoncé en Malachie 3:23, d'où son habillement étrange. Donc, si vous allez voir dans le livre de 1 Rois 1:8, quelqu'un vient donner une prophétie au roi, et il lui dit, voici ce que l'Éternel dit, le prophète nous a dit, c'est ça. Mais à l'époque, il y avait plusieurs prophètes en Israël. Et la question du roi, c'est, il est habillé comment? Et dès qu'on lui dit, hey, il est habillé avec un manteau de poil puis une ceinture, fait comme, oh, c'est Élie. Donc, Élie était connu, était reconnu pour être habillé comme ça. Donc, ce n'est pas par hasard que Jean-Baptiste est habillé de la même manière. Ce n'est pas par hasard non plus qu'il fait son ministère dans le désert. Pourquoi? Parce que la parole avait déjà prophétisé, hein, qu'il y a quelqu'un qui va annoncer dans les lieux arides. « Voici, vient votre Dieu. » Alors vraiment, Jean-Baptiste, il est carrément dans l'accomplissement de cette prophétie-là. Chose qui peut peut-être pour nous, hein, si on ne connaît pas la chanson, on se dit, c'est quoi, pourquoi il est dans le désert? Pourquoi il est habillé de même? Est-ce qu'il est excentrique? Est-ce qu'il est juste bizarre? Eh bien, il est en train de marcher, d'accomplir cette prophétie-là. Donc, on a vu que le commencement de l'Évangile, ça commence dans la parole de Dieu. Mais notre commencement à nous, dans le message de Jean-Baptiste, il commence avec une nouvelle direction. Et c'est là le centre du message de Jean-Baptiste. Hein, alors qu'il annonce que Jésus va venir, la parole de Dieu nous dit qu'il va prêcher deux choses. Il va prêcher aux gens sur le péché et sur la repentance. On va prendre un moment pour comprendre bien ces mots-là ensemble. Donc, le péché, hein, ça fait référence aux gestes ou aux pensées conscientes qu'on a qui sont, on pourrait dire, coupables, mauvaises ou en opposition aux commandements de Dieu. Donc là, je ne vous parle pas d'une pensée qui vous vient comme ça et que vous chassez tout de suite et que vous ne gardez pas dans votre esprit. Je vous parle vraiment des méditations qu'on fait peut-être en nos pensées sur des choses qui déplaisent à Dieu. Il nous parle également de repentance. Donc, l'idée ici de repentance, c'est de changer d'idée ou de compréhension par rapport à quelque chose. Et ça implique une décision de changer. Donc, ce n'est pas un désir de changement. Le repentance, ce n'est pas dire « Ah ouais, ça serait le fun là, que je fasse ça différemment. » Non. La repentance, c'est vraiment dire « Ouais, ce que je fais, je réalise que c'est mal et je vais changer de direction. » Donc, je vais changer de comportement. C'est ce que Jean-Baptiste faisait avec les gens. Il leur disait, il y a Jésus qui s'en vient, il est plus grand que moi, hein? C'est annoncé dans les prophètes. Nous, on doit reconnaître qu'on est pécheurs et on doit changer de direction. C'est comme ça qu'il préparait la route pour Jésus. On dira ces deux concepts qui sont assez simples, mais assez difficiles à comprendre ou plutôt à accepter et à appliquer, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y en a qui se débattent un peu avec « Voyons, il me semble que la Bible, elle me dit ça, c'est mal, mais moi, je n'ai pas l'impression que c'est tant mal que ça. Hein? Mon chemin est mieux que le chemin de Dieu. » Nous, on est chrétiens et souvent, on a des combats comme ça, hein, avec la volonté de Dieu. Alors, imaginez quand on ne connaît pas Dieu encore. Alors, Jean-Baptiste, il faisait un peu l'initiation des gens à leur besoin de changer de direction, tout d'abord en reconnaissant qu'ils avaient mal agi, en reconnaissant leur nature pécheresse. Donc, c'est le cheminement pour nous d'une vie, mais il y a vraiment un moment décisif où on choisit de reconnaître le péché dans notre vie et où on décide de changer de direction pour suivre la volonté explicite de Dieu. Alors, c'est pour ça qu'on avait un baptême de repentance, n'est-ce pas? Il y a un moment dans ma vie où j'ai changé de direction. Si vous n'avez pas vécu un moment comme ça dans votre vie, c'est bon moment de réfléchir à tout ça. Il doit y avoir un moment dans ma vie où je dis, moi, faire la volonté de Dieu, c'est une décision personnelle. Ce n'est pas la décision de mes parents. Je ne suis pas là pour, comment on dit en anglais, pick and choose, donc pour sélectionner ce qui me plaît, laisse le reste. Non, il y a un moment dans ma vie où je décide, moi, je me mets d'accord avec Dieu. Je ne sais pas comment je vais y arriver. Je vais sûrement avoir des petits conflits avec Dieu, hein, avec le Saint-Esprit, que je vais dire « Ah non, ben, j'aimerais mieux faire ça de ma manière et tout ça. » Mais il y a un moment dans ma vie où je dis « Moi, je choisis de me détourner de mes péchés et de faire la volonté de Dieu. » Alors, c'est ce que Jean-Baptiste prêchait aux gens. Et là, je veux juste mentionner quelque chose, hein, parce que quand on parle d'annoncer l'Évangile ou d'enseigner hein, sur le besoin de reconnaître qu'on est pécheur et de se repentir, des fois, on peut avoir l'image un petit peu d'un gars avec une grosse pancarte qui se tient sur le coin de la Sainte-Catherine puis d'une autre rue au centre-ville et là, qui chante fort avec un microphone « Repentez-vous! Vous êtes des pécheurs! » Ce n'est pas nécessairement comme ça que ça se fait. Les gens, et même ici, même si on pense à Jean-Baptiste qui annonçait ce message-là, c'est un résumé de son message. Ça ne veut pas dire qu'il se tenait toute la journée sur une colline dans le désert à dire « Repentez-vous, vous êtes pécheurs et faites-vous baptiser. Hein? » Ici, on a un résumé de ce qu'il enseignait aux gens. Et donc, c'est important qu'on comprenne aussi que, alors qu'on veut ouvrir le chemin dans les cœurs des gens pour qu'ils reçoivent Jésus, hein, on fait ça de différentes manières. Conduire quelqu'un à reconnaître ce qui est péché et amener quelqu'un à la repentance. Ça nous demande un petit peu plus de sagesse, d'habileté et de s'adapter aussi aux gens, selon là où ils sont rendus spirituellement. Maintenant, je ne suis pas encore en train de dire qu'on ne doit pas enseigner en public ou avoir des ministères d'évangélisation. Loin de moi l'idée de vouloir dire ça. Par contre, hein, on sait que l'annonce ou la proclamation de l'Évangile peut se faire dans toutes sortes de contextes et de toutes sortes de manières. Et on peut même évangéliser en public sans nécessairement le faire d'une manière qui va confronter les gens. Et aussi, j'aimerais dire, hein, on le voit dans le contexte social actuel, il y a beaucoup de débats autour de est-ce que les gens peuvent prier en public? Est-ce qu'ils peuvent faire des activités religieuses en public? Donc, ça touche le ministère d'évangélisation, n'est-ce pas? Est-ce qu'on va pouvoir faire des campagnes d'évangélisation en public? Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire, même si on n'avait plus le droit d'en faire comme ça, hein, de faire un grand rassemblement dans un parc, l'Église n'est pas limitée à ces méthodes-là pour partager l'Évangile. N'est-ce pas? On a comme chrétiens, selon l'endroit où on vient dans le monde ou la période de l'histoire, on a souvent vécu des restrictions, des contextes qui étaient plus ou moins favorables. L'Église a continué d'avancer. Donc, soyons créatifs, frères et sœurs, dans notre proclamation du message de l'Évangile. Le troisième point ici, c'est que tout ministère doit ouvrir le chemin vers Jésus. Le ministère n'est pas à propos de nous, hein? Et si vous avancez dans un ministère quelconque dans votre vie ou si les gens commencent à s'intéresser à l'Évangile, il y a quelque chose de tragique qui peut nous arriver. Et c'est de manière consciente ou souvent, je dirais le plus souvent inconsciente, on peut arriver à croire qu'on est un petit peu plus important que Jésus ou donner aux autres l'impression que c'est le cas. Ou même tolérer qu'on se fasse mettre sur un piédestal. Hein? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est définitivement déjà arrivé. Hein? Les gens, non, mais toi, prie pour moi. Comme si ma prière à moi était plus importante que la tienne. Que Dieu faisait comme, OK, bon, mes prières du jour, pas pasteur, je vais attendre, pas pasteur, je vais attendre. Pasteur, ah oui, celle-là, je vais la traiter de manière plus importante. Non, Dieu t'entend. Dieu t'aime. Et je suis contente de prier avec toi. Je ne dis pas de ne pas me dire de prier avec vous. Je vais prier avec vous, ça va me faire plaisir. Mais Dieu vous entend aussi, n'est-ce pas? Alors, c'est vraiment important comme enfant de Dieu, quand on témoigne aux gens, qu'on les pointe toujours vers Jésus. Toujours pointer les gens vers Jésus. Mais ici, il se passe quelque chose de différent dans le mystère aussi de Jean-Baptiste, qui est quelque chose aussi qui va être différent pour nous dans l'Église. Donc, Jean-Baptiste devient un peu une image d'un précurseur. Dans l'Ancien Testament, hein, Élisée a reçu une portion de l'Esprit qui reposait sur Élie. Hein, il va dire à Élie, hein, « Donne-moi, je voudrais avoir une double portion de ton Esprit. » Ici, dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste, le nouvel Élie, ne répand pas le Saint-Esprit. C'est Jésus qui va le faire pour tous. Alors, il y a un petit changement ici. Peut-être vous aurez envie de vous poser la question, hein, quand on parle de notre destination qui est Jésus ou qu'on pointe les gens vers Jésus. Oui, mais moi, si je me repens pour le pardon de mes péchés puis je me fais baptiser, est-ce que ce n'est pas suffisant? Le message de Jean-Baptiste nous dit non, un gros non. Dieu ne veut pas juste faire de nous des bonnes personnes. Il ne veut pas juste faire de nous des gens hein, qui disent « Oui, moi, je reconnais que je suis pécheur, je me repens, je change ma vie, je deviens une meilleure personne. Même je me fais baptiser pour montrer que je veux devenir une meilleure personne. » Ce n'est pas de ça dont il est question ici. Jean-Baptiste va nous pointer vers Jésus pour aller plus loin. Il va dire ceci, et là, c'est intéressant d'aller voir un petit peu les mots originaux. Jean-Baptiste dira, Jésus va baptiser dans le Saint-Esprit. Et là, le mot baptiser, hein, si on le lit dans la langue originale, ça veut dire Jésus va plonger dans le Saint-Esprit. Il va immerger dans le Saint-Esprit. Jésus va faire quelque chose de spécial que vous et moi, on ne peut pas faire pour personne. Maintenant, je sais que quand on parle de baptiser dans le Saint-Esprit, il y a beaucoup de débats dans la vie de l'Église. Mais une chose qui est certaine, c'est que c'est une expérience essentielle et normale pour chaque croyant. On va reparler un petit peu de ça un petit peu plus en détail, mais ce ne sera pas un message sur tout ça. Ici, dans l'Alliance, on enseigne que chaque chrétien ou chrétienne a besoin d'avoir une vie plus profonde avec Jésus. Donc, il faut aller plus loin que l'obéissance à sa parole, que d'avoir une pratique religieuse régulière. Il faut aller vraiment dans une recherche profonde de la sainteté. La sainteté, c'est quoi? Ça veut dire que je veux être plus comme Jésus. Je vais être complètement transformée par lui. Je veux faire sa volonté. Et une recherche aussi de la présence et de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Donc, pour certaines personnes, il s'agit d'une deuxième expérience. Donc, il y a un moment dans votre vie où vous avez choisi de vous détourner du péché, puis de vous repentir. Et il y a un autre moment dans votre marche chrétienne où vous avez réalisé à quel point vous aviez besoin de dépendre du Saint-Esprit. À quel moment vous aviez besoin d'aller plus profondément avec lui. Il y a des gens pour qui ça se fait presque en même temps, et c'est difficile de dissocier les deux, mais c'est important de savoir qu'il faut avoir ces deux expériences-là. Je continue en vous disant, on reçoit une personne, pas un concept théorique. Le Saint-Esprit, nous on est des chrétiens, on croit à la Trinité qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne, c'est pas une idée. Alors, moi, si j'ai une personne chez moi versus si j'ai une idée, ça ne sera pas la même chose, n'est-ce pas? Ça se peut que la personne que je reçoive chez moi, elle veut utiliser ma salle de bain, elle veut que je lui donne un verre d'eau. Elle a une volonté qui lui est propre. Une idée n'a pas de volonté qui lui est propre. Donc, le Saint-Esprit, quand on le reçoit, ça fait une différence dans notre vie. Lorsqu'on a une expérience intime avec Dieu de vie plus profonde, ce n'est pas comme... Je suis devenu chrétien, je crois par la foi que j'ai reçu le Saint-Esprit, mais ça ne change absolument rien dans ma vie. On va vivre quelque chose avec Dieu. Maintenant, je ne vous dis pas que chacun d'entre nous allons recevoir une prophétie ou allons parler en langue. Ce n'est pas de ça nécessairement que je vous parle. Ça peut faire partie de notre expérience avec le Saint-Esprit parce que la Bible en parle. Elle nous dit « voici les dons du Saint-Esprit ». Mais le Saint-Esprit aussi, on va sentir sa petite voix dans notre cœur qui nous dit « Oh, oh, change de direction ici. Oh, oh, voici, j'aimerais que tu fasses telle chose pour tel frère ou telle sœur, ou j'aimerais que tu annonces l'Évangile. » Parfois, le Saint-Esprit dans notre vie, il va être discret aussi. Donc, c'est important pour nous d'avoir la confiance et de cultiver notre capacité à entendre la voix de Dieu dans sa parole, mais également l'entendre quand on n'est pas en train de lire notre Bible. Donc, moi, si j'ai une personne dans ma vie, pas une idée, mais une personne dans ma vie, ça se peut qu'elle m'appelle à un moment où moi, je ne suis pas en train de l'appeler, n'est-ce pas? Alors, c'est un peu la même chose. Quand je lis la Bible, j'appelle un peu le Saint-Esprit à me parler, mais ça se peut qu'en dehors de mon culte personnel, le Saint-Esprit m'appelle. Il me parle. Il parle à mon cœur, n'est-ce pas? Ou peut-être dans un de mes rêves. Donc, ça se peut que le Saint-Esprit initie aussi avec moi. Et donc, comme enfant de Dieu, j'initie avec Dieu, mais je le laisse aussi initier avec moi. Donc, la repentance, c'est un abandon de notre volonté morale, alors que la réception du Saint-Esprit, c'est un peu un abandon de notre volonté directionnelle. Donc, on entre en relation de manière personnelle avec la personne du Saint-Esprit, avec Dieu lui-même. Peut-être une image que je pourrais vous donner, c'est celui d'une randonnée. Il y en a beaucoup qui savent suivre un sentier, mais tous ne savent pas suivre le guide. Donc, si vous faites une randonnée, c'est déjà super bon de savoir qu'il faut rester dans le sentier, sinon vous risquez de vous perdre, de complètement plus savoir comment ressortir de la forêt. Mais si vous ne suivez pas le guide, ça se peut que vous faites beaucoup de détours dans beaucoup de sentiers qui n'étaient pas le vôtre pour vous rendre à l'endroit où vous vouliez. Donc, alors qu'on apprend à suivre Dieu, on doit d'abord apprendre à rester dans le sentier et ensuite, on doit apprendre à suivre le guide, le Saint-Esprit. Par rapport à ça, je veux mentionner également, je vous donne un exemple. Moi, j'ai peur des hauteurs. Je suis pas très bonne avec les hauteurs, mais plus jeune, j'ai eu l'opportunité d'être invitée à apprendre le ski alpin. Et si vous savez pas, le ski alpin, tu es sur une montagne et ça descend comme ça. Maintenant, il y a des pentes qui sont beaucoup plus à pic ou plus qui te donnent un peu plus le vertige que d'autres. Hein, ça va plus vite parce que tu descends plus vite. Il y en a d'autres un peu moins. Alors, quand je suis arrivée, vu que j'étais débutante, le guide m'a dit quoi? Il m'a dit, tu peux suivre tous les sentiers en vert, mais va pas dans le jaune et dans le rouge, t'es pas rendu là. Alors, parfois, quand on suit le Saint-Esprit, parfois, il y a plus qu'un chemin que le Saint-Esprit ouvre devant nous et qu'il nous donne à cœur. Hein, tu peux suivre ce chemin-là ou ce chemin-là. Hein? Et il y a d'autres chemins qui vont nous dire, oui, c'est un chemin, mais t'es pas rendu là. Attends. Donc, parfois, il y a un chemin, souvent, il y a plusieurs chemins. Donc, il faut vraiment avoir la sensibilité au Saint-Esprit et aussi, hein, l'écoute du Saint-Esprit, ça se vit en communauté. Ça se vit avec le conseil des frères et sœurs aussi. Donc, voici ce que Jean-Baptiste nous parle. Hein. Il nous parle de la repentance des péchés, mais il nous parle aussi de la nécessité d'avoir la foi en Jésus et de recevoir, d'être baptisé du Saint-Esprit. Notre défi maintenant sera d'être des petits Jean-Baptiste, donc d'ouvrir le chemin vers Jésus dans les vies des gens qui nous entourent. Si vous pensez à la vie de Jean-Baptiste, dites-moi, est-ce que vous êtes un peu comme Jean-Baptiste dans la vie des autres? Est-ce que vous ouvrez le chemin pour les autres? Est-ce que parfois vous acceptez d'être étrange ou incompris pour préparer le chemin du Saint-Esprit dans le cœur de l'autre? Je ne sais pas. Parmi vous, s'il y en a qui ne sont pas nés dans une famille chrétienne ou qui sont nés dans une famille qui était, disons, mixte spirituellement, comment vous avez perçu au début les gens qui ont eu le courage d'ouvrir le chemin? Moi, je les trouvais vraiment bizarres. Je me disais, mais voyons donc, comment ils peuvent croire des choses comme ça? Ces gens-là, alors qu'ils essayaient d'ouvrir le chemin pour que le Saint-Esprit fasse son œuvre dans mon cœur, pour que j'accepte Jésus, ils ont quand même accepté d'être perçu un peu drôlement. Et ma face le communique souvent très clairement. Donc, probablement qu'ils se sont dit, « Ouais, elle me trouve bizarre, hein? » Eh bien, pour nous aussi, si on veut devenir un peu comme Jean-Baptiste et ouvrir le chemin pour l'Évangile dans la vie de quelqu'un, il faut faire preuve de courage, puis accepter parfois d'être reçu drôlement. Il y a quelques années, peut-être les un peu plus vieux, vous allez connaître cette chanson-là. Si je vous parle de Jesus Freak, est-ce que ça vous dit quelque chose, cette chanson-là? Oui. Je l'ai traduit ici un extrait en français. Et l'auteur dit ceci, « Qu'est-ce que les gens vont penser quand on leur dira que je suis un fou pour Jésus? Qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont réaliser que c'est vrai? » Et des fois, on se pose cette question-là, n'est-ce pas? Hein? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont savoir que c'est vrai, que je suis vraiment comme prêt à être fou ou folle pour Jésus? Avoir l'air fou? Eh bien, frères et sœurs, le ministère d'évangélisation est toujours un ministère prophétique. Alors, on arrive toujours pour annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un qui ne le sait pas, à quelqu'un qui est dans le mauvais chemin. À quelqu'un qui est en désaccord avec Dieu. C'est toujours le cas. Parfois, les gens nous reçoivent, « Ah oui, je suis tellement contente que tu me parles de Dieu. » Moi, personnellement, par expérience, ça m'inquiète plus. C'est parce qu'ils ne veulent pas me communiquer c'est quoi la résistance dans leur cœur. Ou peut-être, de manière, disons-le, plus rare, le Saint-Esprit a déjà fait une œuvre à travers quelqu'un d'autre. Ou à travers un autre moyen. Alors, soyons conscients qu'en général, le ministère d'évangélisation, il est prophétique par nature. Maintenant, je vous pose la question, quelle est selon vous la Bible des gens qui vous entourent? Nous, on ne vit pas une époque où on commence l'ère de la chanson puis les gens savent le reste de la toune qui suit, comme on dit en bon québécois. On parle de l'Ancien Testament, puis les gens sont comme, « De quoi tu parles? » À part que c'est vieux, je ne comprends pas. Donc, pour beaucoup de gens à qui on annonce l'Évangile, il n'y a pas cette fondation-là de l'Ancien Testament. Comment on s'y prend? Pour Jean-Baptiste, c'était simple. Tout le monde connaissait l'Ancien Testament. Alors qu'il annonçait la venue de Jésus, il pouvait aller vers des choses en qui les gens avaient déjà confiance, qui leur parlaient déjà de Dieu. Eh bien, bonne nouvelle pour nous. Hein, le livre de Romains nous parle de deux choses, la conscience et la nature. Donc, par là, je ne veux pas dire qu'on n'utilise pas l'Ancien Testament ou la Bible. Effectivement, si vous avez des gens qui connaissaient la Bible hein, ou qui ont un concept par rapport à l'Ancien Testament, peut-être des gens qui sont d'une autre religion ou qui ont un arrière-plan dans l'Église, utilisez la Bible, bien sûr. Mais on peut se tourner aussi vers la conscience et la nature. Et je vous donne des exemples ici de manière dont on peut le faire. Vous êtes dans une conversation et là, vous voulez amener la personne à reconnaître la notion de bien et du mal. Est-ce que tu me dis, ça me fait penser à quelque chose qui est écrit dans la Bible? Hein? Tu me dis que tu trouves que ça, c'est pas bien. Ça me rappelle que hein, dans la parole de Dieu aussi, on est d'accord avec ça, ce que tu dis. Hein? Donc, parfois, on peut aider les gens à mettre leur confiance tranquillement ou à susciter leur intérêt vers la parole de Dieu pour faire un pont vers quelque chose qui va les conduire à Jésus. Une autre chose aussi, ça m'est arrivé parfois, sûrement ça vous est arrivé aussi, hein? « Ah, si Dieu était bon, il ne permettrait jamais ça. Hein? Dieu est tellement injuste, il a permis ça dans ma vie. Hein? Il a permis la mort, il a permis un divorce, il a permis je ne sais pas quelle autre chose. » Je pense que ce que tu ressens à ce sujet-là est similaire à ce que Dieu ressent. Quand Dieu parlait de la mort, il a dit, hein, il y a un jour hein, où il n'y aura plus ni deuil, ni tristesse, ni grincement de dents. La mort n'était pas le plan de Dieu original. Ce n'est pas sa destinée pour l'éternité. C'est normal que tu aies de la peine. Dieu aussi est attristé par ça. Donc, on vient ouvrir le chemin pour que Jésus puisse être reçu. Un autre exemple de ça, ça pourrait être, par exemple, hein, pour rapport à la nature et la spiritualité qui est axée sur la création. Quand je vois tout ça là, qu'on est en train de voir pendant qu'on fait une randonnée, là, je me sens à la fois petite et émerveillée. La Bible me parle d'un créateur puissant et bienveillant. Je le sais que ce n'est pas le fruit du hasard, ça. Et évidemment, on peut remettre ça dans d'autres mots, mais vous comprenez ce que je veux dire. On utilise les situations qui touchent à la nature et à la conscience pour pointer vers Jésus, vers la Bible, pour pointer les gens vers Dieu. Comment pouvons-nous maintenant encourager les gens à se repentir? Je pense qu'on peut s'entendre pour dire que le péché ne fonctionne jamais. À long terme, là, à court terme, c'est une bonne solution de tomber dans le péché. À long terme, par contre, les répercussions sont assez dommageables, n'est-ce pas? Le péché, c'est un peu comme une illusion. Hein, c'est un peu comme une carte de crédit. Dépense ce que tu veux. Mais dans les petites lignes, il est écrit quoi? 20% d'intérêt. Hein? Hein, le péché crée une dette qu'on ne sera jamais capable de repayer et les intérêts s'accumulent. Et au début, il n'y en a pas d'intérêt, mais plus qu'il y a de l'intérêt, plus qu'on commence à regretter, n'est-ce pas? Donc, c'est la même chose dans la vie des gens qui ne connaissent pas Dieu. Il y a quelques années, je partageais l'Évangile avec une personne, malheureusement pour moi, mais heureusement parce que la personne m'a fait un reflet, ça m'a aidé à m'améliorer dans mon partage de l'Évangile. Je parlais avec la personne et je voulais lui montrer que dans sa vie, une certaine chose était un péché et lui ferait pas du bien. Et j'ai juste comme effleuré le sujet et tout d'un coup, la personne m'a dit « Hey, tu penses-tu que j'aime ça, ce que je fais en ce moment? Tu penses-tu que je vis pas les conséquences de ça? » Et tout d'un coup, ça m'a comme chamboulée parce que je me suis dit « Mais tu fais tout le temps ça. Comme, pourquoi, genre? Moi, je pensais que tu aimais ça parce que tu le fais tout le temps. » Mais la personne était capable de me refléter. Non, en fait, je sais que je suis déjà esclave de ce péché-là et que je vis les conséquences. Donc, les gens souvent le savent. C'est pour ça que bâtir une relation de confiance va nous aider. Il y a différentes choses qu'on peut faire. Dans le cas où les gens ne sont pas ouverts à en parler, hein, ou n'ont pas la capacité de se regarder eux-mêmes, ça peut être bon d'encourager ce qu'on appelle l'autocritique. Donc ça, l'autocritique, c'est la capacité à se voir aller, la capacité à s'autocritiquer, à dire, au lieu de critiquer les autres, on va porter un jugement sur qu'est-ce qu'on fait. Donc, par exemple, moi aussi, je trouve que c'était pas une bonne décision que cette autre personne-là a prise. Mais moi aussi, ça m'est déjà arrivé de prendre un mauvais chemin. Toi, ça t'es-tu déjà arrivé de prendre un mauvais chemin? Hein, des fois, c'est beaucoup plus facile de critiquer la vie des autres. Et ça se fait souvent dans nos relations sociales. Mais ça peut être un espace aussi hein, où on encourage les gens à plutôt tourner le regard vers eux-mêmes. Donc, on peut utiliser ces situations-là pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais je vous encourage vraiment à faire confiance que Dieu a donné une confiance à tous. La Bible nous dit qu'effectivement, on peut endurcir notre conscience, n'est-ce pas? Mais à la base, Dieu nous a donné une conscience. Il m'est arrivé un moment dans ma vie de partager l'Évangile avec une personne que je trouvais quand même très méchante. Et je me disais, je pense que cette personne-là, elle n'a comme pas de conscience. J'étais rendue là dans mon évaluation de cette personne-là, basée sur différentes interactions. Et j'ai prié par rapport à ça et j'ai dit, Seigneur, il me semble que je suis frustrée, j'ai l'impression que cette personne-là, elle a aucune reconnaissance de ses péchés, elle n'a aucune conscience, elle est trop endurcie, je ne sais pas quoi faire avec ça. Et ce que j'ai vécu était vraiment intéressant. J'ai eu l'opportunité d'avoir une conversation à 3 heures du matin avec cette personne-là. Le genre de conversation qui t'en apprend beaucoup. Et je me suis rendu compte, bien, cette personne-là, elle n'a pas de conscience de jour, mais de nuit. Oh, oh, oh! La conscience travaille. N'était pas capable d'échapper. De jour, peut-être, là, avec toute la force, mais la nuit, il y avait quelque chose qui la rattrape. Et Dieu, souvent, essaie de nous rattraper à travers notre conscience. Même des gens qui se sont endurcis, Dieu est là et il tape, il frappe à la porte. Et on peut, en étant conduit par le Saint-Esprit, hein, contribuer à l'œuvre que Dieu veut faire dans le cœur de quelqu'un d'autre. Donc, on peut arriver avec certaines questions qui vont nous aider aussi. Hein? Ta situation n'est vraiment pas facile. Où est-ce que tu trouves des conseils? Est-ce que je peux te partager ce que la Bible en dit? Donc, on veut amener la personne à se repentir. Hein? On veut l'amener vers la source de sagesse, le guide qui va lui donner une direction. Et avant, peut-être qu'elle soit capable d'écouter le Saint-Esprit, il faut qu'elle commence avec quelque chose d'objectif comme la parole de Dieu. Donc, on l'amène vers la parole de Dieu. On peut aussi lui donner un exemple de notre vie. Hein? Moi, quand j'ai de la misère à trouver mon chemin dans la vie ou quand j'ai envie de prendre le mauvais chemin, et là, vous pouvez parler de vos disciplines, par exemple, hein? Avec la lecture de la parole de Dieu, mais aussi avec l'écoute du Saint-Esprit. C'est quelque chose qu'on a besoin d'apprendre. On a besoin d'apprendre à entendre le Saint-Esprit, n'est-ce pas? On a besoin des autres pour le faire. Pour conduire à Jésus, on doit se souvenir d'une chose, mon travail n'est pas suffisant, Dieu doit agir dans le cœur des gens. Il n'y a pas personne ici qui peut dire, moi j'ai conduit quelqu'un à Jésus à 100%, n'est-ce pas? Vous ouvrez le chemin, vous aidez les personnes à se rapprocher, mais c'est vraiment, il y a quelque chose qui se passe qui est en dehors de notre contrôle. Dieu doit agir. Dieu doit avoir un tête-à-tête avec cette personne-là. Et vous ne serez pas dans ce tête-à-tête-là. C'est Dieu et cette personne-là dans son cœur. Donc, on veut, comme enfant de Dieu, encourager l'attachement des gens à la personne de Jésus, plutôt qu'à soi-même, n'est-ce pas? Hein? Alors, qu'est-ce que tu sens que Dieu te dit par rapport à ça? C'est super bon qu'est-ce que tu fais, mais comment est-ce que le Saint-Esprit se manifeste dans ta vie? Hein? Pas juste une obéissance pratique, une relation personnelle avec Dieu. Je veux pas juste savoir est-ce que tu lis ta Bible. J'aimerais savoir aussi qu'est-ce que tu sens que Dieu te dit dans ton cœur. Hein? Comment tu sens que Dieu te dirige? Est-ce que vous allez être le genre de chrétien qui allait dire ah ben à moins que ça soit écrit dans la Bible, Dieu, je le ferai pas. Hein? Tout ce qui est écrit, juste ce qui est écrit dans la Bible, puis le reste, bon, c'est pas nécessaire de prier, hein, Dieu a déjà révélé sa volonté. Non, Dieu nous appelle à la prière. Dieu nous appelle à la dépendance avec lui. Une dépendance qui va plus loin que l'obéissance stricte à sa parole. C'était d'ailleurs un problème pour les gens à qui Jean-Baptiste a prêché. C'était un problème pour les leaders religieux de l'époque. Non, mais moi, j'ai ce qui est écrit ici, là. Je me garde juste dans les lignes ici, là. On commence là, on reste là, mais on écoute le Saint-Esprit aussi. On a une relation personnelle avec la personne de Dieu. Soyons prudents, frères et sœurs. Beaucoup ont des théories sur Dieu, mais tout le monde n'a pas une expérience de Dieu. Alors, nous voulons que notre expérience de Dieu dépasse nos concepts théoriques. Hein? Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une théologie. On a toujours besoin d'une théologie. On a toujours besoin de comprendre la parole de Dieu. On a toujours besoin de mettre en pratique la parole de Dieu. Mais on a besoin d'une intimité avec Dieu aussi. Une intimité avec la personne de Jésus, avec le Saint-Esprit. Donc, frères et sœurs, c'est mon encouragement pour nous ce matin. Ouvrons le chemin pour Jésus dans la vie des autres. Et c'est notre prière aussi comme famille d'Église. Hein? On a pris en juillet, pas de cette année, mais de l'année dernière, on a vraiment senti que le Seigneur nous appelait à doubler notre impact, à doubler notre portée dans la vie des gens. Hein, de dire, bien, on veut être une église qui sort un peu plus de ses murs, qui va vers les gens du dehors. Nous, on n'a pas la capacité de faire entrer les gens hein, dans la famille de Dieu, mais on a la capacité d'ouvrir le chemin pour eux. On a la capacité de faciliter la route pour eux. Alors, frères et sœurs, il nous faudra être comme Jean-Baptiste, fidèle, persévérant, sans craindre le ridicule, en étant prophétique, En rentrant simplement dans la mission que Dieu nous a donnée. Dieu ne t'a pas demandé de plaire aux gens, hein? Il t'a demandé de faire des disciples, de proclamer l'Évangile, de vivre en unité avec les frères et sœurs dans l'Église aussi, hein? De travailler ensemble. Fais appel à la révélation de Dieu dans la vie des gens. Dieu est déjà en train d'essayer de se révéler. Vous n'arrivez pas le premier. Hein? Dieu est déjà à l'œuvre dans la vie des gens. Conduisez-les vers la révélation ultime de Dieu qui est Jésus-Christ tel que présenté dans sa parole. Amenez-les à rencontrer Jésus pour qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Encourager les gens à reconnaître leurs péchés et à se repentir. Ils ne sont peut-être pas prêts encore à croire en Jésus, mais si vous êtes capable de faire un pas vers la reconnaissance des péchés et la repentance, on est en train d'ouvrir le chemin. On est en train d'ouvrir le chemin pour Dieu. Et comme je le disais, on veut orienter et conduire à Jésus pour permettre une expérience transformatrice et authentique du Saint-Esprit. Dieu est bon pour nous, soyons bons pour les autres, ouvrons la route avec fidélité, avec patience. Donc, nous allons prier. Éternel mon Dieu, je veux te dire merci pour ta parole. Merci Seigneur Dieu pour l'exemple de Jean-Baptiste qui a vraiment accompli, Seigneur, la prophétie que tu avais donnée à Malachie et à Ésaïe dans l'Ancien Testament. Merci qu'il a ouvert le chemin pour toi, Jésus, pour que les gens qui te rencontrent aient déjà une compréhension de ce qu'est la repentance et le péché. Je te prie, Éternel, mon Dieu, que nous-mêmes, nous puissions être des chrétiens qui soyons unis à toi intimement, Seigneur Dieu. Donne-nous, Seigneur Dieu, de nous laisser immerger dans ton Saint-Esprit, Seigneur, de nous laisser conduire par toi qui est notre guide, Seigneur, en n'oubliant pas ta parole, mais en fondant, Seigneur Dieu, notre connaissance intime de toi sur ta parole, Père. Viens, Seigneur Dieu, nous élevons vers toi, Seigneur, les membres de nos familles, les amis, les collègues de travail ou d'études, les gens autour de nous qui ne te connaissent pas. Viens, Seigneur Dieu, et montre-nous comment ouvrir la voie, Seigneur, de manière individuelle et collective. Et c'est en ton nom, Jésus, que nous te prions. Amen.